Il y a beaucoup de sortes de beauté. La beauté extérieure, je ne crois pas que c'est très important.
Chez un homme comme chez une femme, la beauté physique, quand on a le reste, c'est effectivement dans la vie un gros avantage.
Je venais de Paris, les cheveux coupés à la garçonne, les jambes longues, prêtes, peu habillées. J'aimais que les pores respirent.
Je regrette beaucoup d'avoir les cheveux longs. J'ai les cheveux longs depuis que je suis ministre.
Salut, bienvenue dans Parlons B, le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Salut, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé ici. Si vous avez loupé l'info, sachez que c'est parce que j'ai lancé un deuxième podcast sur la musique et la poésie qui s'appelle « Vous avez un MP ». Mais rassurez-vous, l'idée n'était pas d'arrêter Parlons B, juste de prendre un peu plus mon temps. Et ça m'a plutôt réussi car je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous avec une nouvelle invitée que j'admire depuis quelques années maintenant, pour ne pas dire presque 20 ans. Elle est corse et s'est faite connaître par ses croquis de look à une époque où les mots blogueur, influenceur ou créateur de contenu n'existaient pas encore. Je pense pouvoir affirmer sans me tromper qu'elle a largement contribué à ce nouveau monde tout en gardant son extrême authenticité, et ça c'est rare. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit bien de Garance Doré. Et si elle est dans Parlons B, c'est parce qu'elle a un peu mis de côté le monde de la mode pour celui de la beauté en lançant sa propre marque aux formules courtes et très efficaces, Doré. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, bien sûr, mais aussi de burn-out, de l'importance de s'écouter et de savoir s'arrêter, et d'hydratation. Bonne écoute.
Bonjour Garance.
Bonjour Noline, ça va?
Oui, très bien, et toi?
Ouais, ça va bien, il fait beau, enfin, je crois qu'il va faire beau toute la journée, je vis en Angleterre, et donc pour nous c'est...
Mais il fait plusieurs fois beau par jour en Angleterre.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est ce qu'il faut se dire, comme en Normandie.
Ouais, t'es de Normandie?
Oui, je suis de Normandie, ouais. Donc c'est pour ça que je connais ce genre
de... À l'habitude, moi je viens de Corse et j'avoue que là, tu sais, au début en fait, quand tu vis, et c'était pareil à New York, quand j'habitais à New York, je me disais non mais l'hiver c'est vachement bien, on est cosy, da. Et après t'arrives en mars, genre fin février déjà, et là genre, et mars... Avril, là, on est en avril et hier, il faisait encore un temps pourri et j'étais là, genre, je sais pas si c'est possible. Mon mec est anglais, mon mari, et il me disait, ah non, mais tu comprends pas, les hivers, tu peux pas les faire en entier comme ça, il faut casser, il faut partir et tout.
Ouais.
Et moi, je disais, tu te rends pas compte, c'est tellement romantique, l'Angleterre, les petites lumières, le feu, la cheminée, le chat, tout, machin. Et là, en fait, là, c'est bon, ça fait 4 ans, je crois, c'est bon. Voilà, mon histoire. Donc là, il y a un rayon de soleil, je suis très très contente.
J'aime beaucoup ce début de podcast, je crois que c'est la première fois que je fais un épisode où on parle du temps et j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup, et aussi, tu as donné plein d'indices avec cette introduction, et en fait, juste pour expliquer aux auditeuristes, on est à distance, voilà, parce que toi, donc, tu es en Angleterre, moi je suis en France, et donc j'ai pas réussi à te voir quand tu étais de passage à Paris la semaine dernière, donc on organise ce petit rendez-vous à distance et je suis vraiment ravie. Parce que je te suis depuis quelques temps maintenant.
Depuis inception. Ça fait 18 ans en fait. J'ose même pas le
c'est
dire.
C'est vrai, 18 ans.
Ça fait 18 ans que j'ai commencé mon blog.
Ouais. Ben voilà, c'est parfait. Qui es-tu, Garance, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais? Présente-toi.
Alors, en fait, je pense que si les gens me connaissent, c'est parce que il y a 18 ans, j'ai ouvert un blog. J'avais 31 ans à l'époque et je ne savais pas du tout quoi faire dans la vie. J'étais illustratrice un peu ratée parce que, en fait, c'est un métier très difficile et je m'étais lancée là-dedans un petit peu sans faire des recherches. Ce qui est bien, en fait. Parfois, il faut se lancer dans les choses sans savoir parce que ça nous amène quelque part.
Et même, on n'ose plus à se lancer quand on ne sait pas ou on connaît pas.
Ouais, exactement. Je n'étais pas du tout réaliste. C'est bien. Mmh. Et, enfin, c'était bien jusqu'à ce que je puisse plus payer mon loyer, mais c'était... mais c'était bien. Et j'ai ouvert ce blog à l'époque. Je ne vais pas dire que je ne savais pas du tout que ça pourrait avoir un aspect positif sur ma carrière. je l'ai fait parce que j'étais un peu perdue et je voulais évoluer dans mes dessins et j'avais besoin du feedback des gens. Et je me disais, bah, voilà, ça va au moins me donner un retour sur mes dessins. C'était un peu ça le but à la base. Parce que
c'est les tout débuts du blog. C'est à l'époque, ouais. C'était vraiment très récent comme média, comme support.
Super récent. La France était assez en avance là-dessus, finalement. C'est assez intéressant.
Ah ouais?
Ouais, on était vraiment les premiers à faire, tu sais, un peu des journaux intimes, quoi. Enfin, c'était vraiment, il y avait un côté hyper honnête. Il y avait un côté français, en fait. Il y avait un côté, voilà, on se parlait entre femmes. Il y avait, les gens se soutenaient et tout. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore d'argent et tout ça. Donc, c'était très basé sur le côté humain et tout. C'était chouette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été l'une de celles, on a été une poignée, en fait, qui avons été complètement projetées sur le devant de la scène et qui avons attrapé une espèce... C'est un peu comme en surf, en fait, tu sais, où t'es dans l'eau, tu végètes un petit peu, ça peut durer des heures. Je ne suis pas du tout surfeuse, mais c'est vraiment... Et soudain, t'as une vague qui arrive et avec un tout petit peu de chance, un tout petit peu de dextérité, un peu de... Tu vois, il faut travailler quand même. Tu l'attrapes, et moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et ça a été un timing incroyable. J'ai eu beaucoup de chance. On a été un groupe, ce qui était aussi important. Souvent, on dit, oui, c'est difficile, la compétition et tout, mais s'il n'y a pas un groupe, il n'y a pas de mouvement, en fait. Mmh. Et donc, on a été un mouvement comme ça, qui était très chouette. Je suis montée... Alors, je n'ai pas commencé du début, mais j'habitais à l'époque à Marseille. Je suis allée m'installer à Paris très vite, parce que je me suis dit... Pour la première fois de ma vie, il se passe quelque chose. Moi, je suis très... je suis non seulement... J'ai né et grandi en Corse, mais en plus, j'ai grandi dans une famille de parents immigrés, très intelligents. Ma mère est très cultivée, très intéressée et tout ça, mais quand même avec une base de quand même peur. Il faut aller travailler dans voilà. Bon, on ne m'a pas donné le don... Fais le don de « vas-y, suis tes rêves, sois créative ». J'étais très créative.
Il fallait plutôt se fondre dans la masse. Et, ouais.
Voilà, exactement. Et puis, on avait déjà, on gérait déjà un petit peu, ma mère avait déjà géré quand même pas mal de racisme et tout. Elle est algérienne, marocaine. Donc, il y avait tout ça en Corse et tout. Il y avait tout un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, moi, j'étais vachement bonne à l'école et qu'on voyait quand même... J'étais l'aînée, donc on porte un petit peu...
Un poids, un devoir.
Voilà, une mission, ouais, une mission, quelque chose comme ça. Puis, je suis taureau, donc je suis très... voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'accomplir, de rendre les gens fiers de moi et tout ça. Et donc, il y a eu toute une espèce de période de flottement un peu difficile. Et comme j'avais... j'avais ce truc où je travaillais bien, j'étais bonne élève et tout, on se disait, ça va être, elle va être notre notable, tu vois, je sais pas. Et alors que pas du tout, je glandais rien à l'école, enfin voilà. Donc,
mes tu débuts dessinais été...
Ouais, je dessinais, ouais. Je lisais des livres, je tombais amoureuse déjà, hein, je commençais à tomber amoureuse à 13 ans, ça ne s'est pas arrêté depuis, c'est juste beaucoup de gens qui ont changé. Qu'est-ce que je faisais? J'aimais bien... faire la fête, j'étais déjà un peu comme ça, quoi. Tout ça pour te dire que j'ai commencé à 31 ans et d'un coup, cette espèce de succès incroyable est arrivé et j'ai vraiment sauté dessus. Je me suis dit, cette vague, je ne vais pas la lâcher. Évidemment, je n'ai pas pensé comme ça à l'époque parce que j'en savais rien. Et puis surtout, ça... Mais je me suis dit, vas-y, quoi.
Tu t'es laissé porter. Enfin, porté, et puis aussi, tu as, comme tu dis, t'es taureau, t'as foncé, et donc t'as aussi entrepris, voilà, bien sûr.
J'ai beaucoup travaillé. C'était assez étonnant pour moi, parce que quand même, on parle que d'astrologie, mais on a les taureaux ont aussi un côté très hédoniste, très lent, je me reconnais complètement là-dedans. J'ai un côté, mais fainéante, mais je pourrais rester des heures assis sur le canapé à rien faire, à juste regarder à réfléchir. Mais je me suis découvert un côté mais hyper bosseur. Dès que j'ai trouvé en fait ma passion, alors là on pouvait plus m'arrêter. Et ça m'a porté en fait jusqu'à New York, les Fashion Week, devenir. Alors je pense que par rapport peut-être à la plupart des autres de mon époque, des autres blogueuses. J'ai peut-être eu un peu plus d'ambition et peut-être plus de... J'étais peut-être plus désespérée, j'avais peut-être plus besoin de cette reconnaissance, parce que ce que j'ai compris assez vite, c'était que c'était important que je traduise mon blog en anglais. Et en fait, j'ai fait
d'être professionnelle, en fait, de rendre le...
C'était pas tellement professionnel, parce que je pensais pas comme ça, je pensais international. J'ai compris, parce que en fait, quand j'ai commencé à poster des photos de la Fashion Week sur mon blog, ce que je faisais pas avant, au début c'était juste mes chroniques avec des dessins, j'ai tout de suite eu des gens qui laissaient des commentaires en anglais. Et je sais pas, je pense que j'avais un truc inné comme ça, de vouloir communiquer avec le plus de gens possible. Et je pense que c'est ça aussi. Il y a eu plein de petits déclics, et il y a eu plein de petits moments, je pense, où j'ai eu du nez, qui ont fait que j'ai été reconnue. Si tu veux, après, je me suis installée à New York. Là aussi, je me suis dit, allez, c'est le moment, on y va. Les portes aux États-Unis, c'est très connu, s'ouvrent grand, alors que celles en France étaient encore genre, ouais, c'est quoi, c'est bloqueuse, c'est nul, on nous laissait pas rentrer dans les défilés, d'ailleurs on essayait même pas d'y rentrer, on était encore vraiment des outsiders, mais de chez outsiders, quoi, pas des outsiders chic.
Mais pas désiré, pas désiré du tout.
Non, mais vraiment pas, on se faisait, ça a été très très dur, il y a eu des côtés hyper humiliants, hyper durs, dont moi je parle un petit peu parce que j'écris, donc c'est ça que je peux transformer ces expériences en des histoires, en quelque chose de drôle et tout ça, mais c'était dur. Mais en même temps, moi j'ai toujours bossé dans ma vie, j'ai toujours fait des trucs un peu je suis débrouillarde, quoi, donc j'allais pas m'arrêter à cause de ça. Et j'essaye de trouver le fil de mon histoire. Et donc tout ça m'a amené, en fait, ma carrière aux États-Unis a complètement explosé. J'ai été très reconnue, j'ai reçu un award, CFDA Awards, qui est l'une des plus, c'est la plus grosse reconnaissance dans le monde de la mode. Et donc tu vois, c'est Anna Wintour qui s'en occupe. Enfin bref, tout ce que tu peux imaginer, les portraits dans Vogue, des couvertures de magazines, les agents, beaucoup de travail, beaucoup d'argent.
Comment t'as vécu cette période à ce moment-là, justement? Comment t'étais dans quel état d'esprit?
C'était génial. Je travaillais tout le temps, mais le travail, c'est génial. En plus, j'étais amoureuse. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait la même chose que moi, Scott, que j'adore toujours, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est pas qu'il m'a aidée tellement sur le côté reconnaissance extérieure, parce que je pense que j'aurais fait mon chemin. Il m'a beaucoup aidée pour m'enlever ce côté trop modeste qu'on a, où il ne faut pas être. Alors lui, il était complètement américain. Il m'a dit, mais vas-y, mais fonce, donne-toi les moyens. Un truc qu'on ne sait pas trop faire en France. Achète-toi une super caméra, crois en toi. Maintenant, ça a beaucoup évolué, la France, depuis... Mais quand j'ai commencé il y a 20 ans, on était encore dans les trucs, mais pour qui elle se prend, celle-là? Mais non, mais enfin, voyons, tu n'es pas photographe, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Donc, lui, il a tout... il a fait une détox de ça. Ouais. Et j'ai bien... Et il m'a toujours dit, on est toujours amis, et on se parle toujours de ce genre de choses et tout. Il m'a toujours dit, mais en fait, ce qui est bien chez toi, c'est que tu as cette capacité à écouter aussi. Mais t'es pas la première à qui je donne des conseils, mais il m'a dit, toi, t'as été capable d'écouter.
D'écouter et de te remettre en question, du coup?
Ouais, de me remettre en question.
Par rapport à ce que tu fais, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, je pense. Mais franchement, c'est écouter et entendre. C'est pas juste, voilà, j'entendais ce qu'il me disait. Je dis, ah oui, c'est vrai, il a raison sur ça. Et après, les changements se faisaient un peu naturellement. J'étais comme une éponge, en fait, j'avais besoin de tout ça. Je sentais quand j'étais jeune et que j'habitais en Corse, il y avait quelque chose à l'intérieur qui... il y avait un autre moi qui était là. On est un peu comme des poupées russes, et après il faut... Et qui me parlait. J'allais acheter toujours j'étais la seule, je pense, qui achetait... The Face, ID, tous les magazines internationaux, je lisais en anglais et tout. En Corse, pour les trouver, je te dis pas, c'était genre... ils arrivaient 4 mois en... Enfin, je veux dire, j'ai grandi dans les... Moi, j'étais teenager dans les années 90, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment une autre époque. Pas d'Internet et tout, machin. Mais j'avais déjà ce truc-là. J'avais un petit ami qui allait faire ses études à Paris. Je l'envoyais m'acheter des trucs chez APC. À l'époque où c'était genre Bottega Veneta maintenant, quoi. Ouais, c'était le truc. Ouais. C'était pas les mêmes prix, mais c'était la marque de mode la plus cool. Et moi, j'en rêvais. Donc, il y avait tous ces trucs-là. Donc, j'avais déjà ça. J'avais cet amour de la mode. Ma mère aussi avait l'amour de la mode. Donc, c'est pas non plus...
Oui, c'est quelque chose que tu as appris aussi avec elle. Ouais. T'as transmis. Ouais.
Voilà, il y avait quand même quelque chose là. Et voilà. Donc, c'est comme ça que les gens m'ont connue. Et tout ça, en fait, c'était merveilleux, pour répondre à ta question. Dur, mais je crois qu'il y a toujours autant de ombre que de lumière. Plus on a de lumière, plus il y a de l'ombre. Plus on a des émotions, plus il y a toujours un truc comme ça. Et donc il y avait un côté, même si je le referais et je referais exactement pareil, il y avait quand même un côté où je savais pas m'écouter. J'étais dans ma trentaine, j'étais encore jeune. Et puis j'ai été prise dans ce succès, et en fait très 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 vite les Fashion Week, ça a commencé à être difficile pour moi. Ça a toujours été difficile parce que il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, c'est ça qui se passe en général, hein. On vit des moments comme ça de folie, je sais pas, d'apprentissage, des moments de vie hyper forts et tout. Et on laisse de côté un petit peu tous les trucs qui vont pas trop. Et puis, je crois que ça s'est accumulé. Puis, à un moment, j'ai craqué. Je te parlais des défilés. Pour moi, ça a toujours été un peu difficile parce que il y avait un côté qui me rappelait un peu là d'où je venais, de Corse. Il y avait ce côté, tout le monde se connaît. Tout le monde a un jugement un petit peu comme ça. Tout le monde, enfin, il y avait un petit côté première de la classe aussi, ce côté-là que moi j'ai toujours fui, je sais pas pourquoi, où c'était la rentrée des classes, il fallait être bien habillé, il y avait un côté comme ça, et je crois qu'il y a des gens qui comment dire en anglais, qui thrive, qui vraiment arrivent à trouver leur place dans ces choses-là, et ils adorent. Et moi j'avais un côté où j'avais envie de jouer le jeu. Je me préparais et tout, machin. Mais j'échouais tout le temps. J'arrivais jamais à tenir le coup, à me trouver tout le temps. J'étais tout le temps un petit peu trop grosse. J'étais tout le temps un peu... J'étais jamais vraiment comme il
fallait. Selon tes critères à toi, ou c'est des gens qui te faisaient sentir?
Non, c'était pas mes critères. C'était la taille des vêtements. Parce que, si tu veux, les premières Fashion Week, je m'habillais avec les moyens du bord. J'allais chez Zara. Je faisais des trucs vintage et tout. Mais du coup j'étais pas questionnée en fait sur ma taille de vêtements et tout ça. Et puis ensuite on a commencé, ça allait très vite, on a commencé à vouloir me prêter des vêtements, et tout le monde sait, enfin maintenant que les vêtements, bon maintenant ça a peut-être un petit peu changé, quoi que j'y crois pas trop, mais les vêtements qu'on nous prête, c'est, on nous demande pas quelle est ta taille, ils ont des samples, et c'est taille 1, taille 0 et tout ça. Et on a beau être bien dans sa peau, on est quand même dans un monde. Maintenant, les gens, je crois qu'ils osent plus, ce qui est génial, parce que ça a beaucoup changé. Et au contraire, on va dire, c'est tellement merveilleux, on accepte tout le monde et tout. Mais à l'époque, on ne disait pas ça, quoi. C'était vraiment. Et j'étais. Je cherchais quand même à m'intégrer et tout ça. Puis il y avait tout ce côté où je rencontrais toutes mes idoles de la mode et tout. Et à chaque fois, j'étais là, genre. Il y avait un truc qui collait pas, et je me rendais pas compte qu'en fait j'étais en train d'être un peu déçue et que je supportais pas ça. C'était vraiment quelque chose, je me disais, et en fait maintenant que j'ai grandi, j'ai mûri, je me dis non mais tu attendais trop en fait de tout ça. Ces gens que t'as rencontrés, j'étais genre vraiment tout le monde, ils sont géniaux dans leur métier, ça veut pas dire qu'il faut qu'ils sachent tu vois, la philosophie de la vie, toutes ces choses-là. Et moi, j'étais très idéaliste. Je pense que ça fait partie de mes qualités et de mes défauts. J'étais très idéaliste comme ça. Et qu'est-ce que j'imaginais trouver dans la mode, je ne sais pas. Mais il y avait un côté où j'étais là, genre, oh, c'est un peu dur. Et je balayais tout ça sous le tapis, comme on dit en anglais. Je ne sais pas si on dit ça en français. Ça va, ouais. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai craqué, en fait. Je devais aller à un défilé Chloé. J'étais au firmament de ma carrière, même si je pense quand même, encore une fois, j'ai quand même eu du nez là aussi. Je sentais qu'il y avait toute une nouvelle génération qui arrivait. Je me rappelle, j'ai des moments comme ça, de flash, où je sentais que non seulement il y avait toute une nouvelle génération et moi j'étais plus de cette génération, ce qui est ok, mais en plus, elle savait qu'elle pouvait réussir. C'est-à-dire qu'on était déjà passé par là. Et donc, là, pour le coup, je pense qu'il y avait une compétition, mais c'était... Et elles étaient beaucoup, il y en avait beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Donc, si tu veux, moi, quand j'ai commencé, au début, on était une petite quinzaine de filles super, on se soutenait et tout, machin, même si je pense qu'il y a toujours un peu de jalousie dans ces trucs-là, mais moi, j'en ai pas souffert. Même encore aujourd'hui, parfois on se parle, enfin, c'était doux, il y avait quelque chose de chouette. Et là, maintenant, c'était différent. Maintenant, il y avait, je sais pas, des centaines de filles qui arrivaient au défilé spécifiquement, qui est un endroit, je sais pas si c'est intéressant pour toi, mais c'est aussi un endroit où on se fait un nom, on s'assied, ouais, on rencontre les gens de l'industrie. C'est une plateforme, en fait, les défilés.
Une plateforme avec ses codes, avec ses règles. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est tout un monde.
Ben, c'est-à-dire...
En quelques minutes, en plus, parce que c'est très rapide, en fait.
C'est pas si rapide, puisque tu passes une heure à attendre, en général.
Oui, remarque, c'est vrai. Il y a l'heure d'attente et le show dure que quelques minutes.
Voilà, t'as devant le défilé, le passage d'un défilé à l'autre. Donc, parfois, tu vas monter en voiture avec quelqu'un. Il y a tout plein de moments vides, comme ça. Et c'est dans ces moments que se passent plein de choses. Il y a l'after show, où tu peux aller voir le créateur. Il y a tous ces moments. Et tous ces moments peuvent être des moments où... quelqu'un qui est plus important que toi ne te dit pas bonjour, alors que hier il était moins important que toi et il te courait après. C'est que des trucs comme ça. Je pense que ça doit être encore beaucoup ça. Il y a beaucoup de statuts dans la mode. Et donc voilà, j'ai senti quand même que quelque chose allait se passer et que moi, je n'avais pas les dents assez acérées pour me battre. Non seulement parce que je pense qu'une fois qu'on a réussi... quand je vois des gens comme Madonna par exemple qui continuaient, tu vois, je sais pas pourquoi je pense à elle, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, il s'est battu pendant des années pour rester au top mais moi j'aurais jamais pu faire ça parce que j'ai pas assez d'ambition, je pense, ou alors
je sais pas, ou juste peut-être c'est pas ce que tu aspires tout simplement à dans la vie, enfin c'est peut-être pas une question là d'ambition, c'est plus est-ce que savoir être aligné, savoir ce qu'on a envie ou non, en fait.
Ouais, mais je savais pas du tout ce dont j'avais envie à l'époque. Je suis d'accord avec toi complètement, mais je savais pas du tout. Et puis surtout, j'entendais les gens qui me disaient, mais moi je commençais à parler hein, de plus aller au défilé. Ça faisait déjà quelques années. J'en parlais à mes copines de la mode. Je disais, mais comment toi tu fais pour supporter ces longs mois de mode où... En même temps, il y a un côté très superficiel, on en est tous conscients, donc il y a une espèce de truc comme ça où tu sais, tu peux pas te plaindre, mais en fait, t'es misérable, mais tu peux pas te plaindre parce que c'est tout glamour et tout. Et tout ça. Et mes copines me disent non, mais moi j'aime bien, ça me plaît. Et je comprenais pas pourquoi moi j'étais tellement. J'en pleurais, je rentrais souvent le soir et je pleurais. Et donc voilà, j'avais commencé un petit peu à me dire bon, il faut que. Je sais pas ce qui se fera après. Enfin, non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit ça quand j'ai craqué. Voilà. Mais je continuais à y aller parce qu'on me disait non, mais vas-y, tu vas pas abandonner. Tout le monde veut ta place. Regarde, tout le monde veut ta place, comment tu vas abandonner ça? Et puis mon corps m'a obligée, en fait, et c'est très bien comme ça.
Et justement, ce moment-là, c'est là où tu as décidé de faire une pause et d'un an à peu près, de tout couper et de te recentrer pour chercher ce que tu voulais vraiment. Comment ça s'est passé?
En fait, justement, en fait... Je veux surtout, enfin, je suis en train d'écrire un livre et je trouve qu'on est dans un monde maintenant où on essaye de tout faire en formule. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors évidemment, je peux l'écrire, tu sais comment on dit maintenant, et dire oui, alors j'ai voulu prendre une pause parce que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les choses simples, l'essentialisme, et voilà. Et donc j'ai pris une pause de un an où j'ai réfléchi et ensuite j'en suis sortie gagnante et avec tout ce que je voulais. Mais c'est pas du tout comme ça, quoi. Ces moments-là, ils sont longs, ils sont durs, on sait plus qui on est, on arrête... Oui, pour moi, ça a été un peu spectaculaire parce que je pense que j'étais la première qui avait réussi et qui arrêtait. Donc, les gens en ont parlé comme ça. Il faut jamais dire non à un tout petit peu de publicité, mais derrière, behind the scenes, comme ça, c'est faux parce que en fait, enfin c'est faux. Ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire au début, je commençais à plus aller aux défilés que j'aimais pas. Ensuite, ça s'est fait sur plusieurs années jusqu'à un jour où j'ai dit bah c'est quoi la prochaine Fashion Week, je prends pas mon billet d'avion, j'y vais pas. Et là, mais c'était pas genre comme ça serait dans un film où on quitte un défilé, ouais. On dit j'y vais plus jamais. Ensuite, j'ai pris quelques années, mais en fait, moi si tu me demandes vraiment, j'en suis à peine en train d'en sortir de cette pause parce que j'ai beaucoup cherché. Quand on se perd autant, mais pas, c'est pas un truc négatif, il faut savoir. C'est normal dans la vie. Hein, on ne peut pas tout le temps savoir exactement où on va et tout. C'est pour ça que je trouve qu'on donne, surtout aux jeunes, en fait. Ouais. Alors, ça aide hein, d'avoir un petit peu des guides et tout, mais il ne faut surtout pas croire que la vie est faite de formules comme ça, c'est faux, puis c'est dommage en fait, parce que les moments où on se perd, on trouve plein de choses et on se rencontre aussi beaucoup. Et donc, ouais, j'ai pris du temps pour moi. C'est super, ça a été dur, il y a eu plein de choses qui sont passées, ça a été la vie, mais en tout cas, j'ai tourné une page et ça, c'est une très bonne chose que j'ai jamais, jamais regrettée.
Tu penses que tu as tourné la page, vraiment cette page de la mode et, ouais.
Ah oui, non mais complètement, je suis complètement détachée. J'en ai vraiment rien à foutre, si je peux me permettre de parler comme ça. J'adore m'habiller, mais finalement, en fait, je suis retournée à celle que j'étais au début. C'est-à-dire avec... j'aime les belles choses, j'aime m'habiller, j'aime les gens bien habillés, ça me plaît. Mais alors, savoir quelles sont les dernières tendances. Et je les suis, mais il faut que ce soit naturel. Et c'était pour ça que j'ai commencé à prendre des photos des gens dans la rue. Hein.
Bien sûr.
Les choses, elles ont été changées petit à petit par moi, parce que c'était... tellement merveilleux d'être acceptée dans ce monde et tout. Mais à la base, moi, ce que j'aimais, c'était comment les gens s'habillaient au début, quand j'allais à la Fashion Week, et que c'était des gens de l'industrie. Mais il n'y avait pas toutes ces démonstrations en dehors des défilés et tout. C'était pas encore ça. Pendant quelques années, on a eu un espèce de moment magique.
Et alors, tu en es arrivée à ouvrir ce nouveau chapitre qui est sur la beauté. Vraiment la beauté, parce que c'est, on parle de beau depuis tout à l'heure, qui peut être un peu pas joli dans les parties plus ombragées, comme pour reprendre tes termes, mais là la beauté au sens skincare, comment t'en es venue à te lancer dans cette aventure?
Alors en fait, ça c'est une autre partie de l'histoire, encore une fois je te dis, tu me poses une question, je te réponds dans une heure.
Mais c'est parfait.
C'est une autre partie de l'histoire, c'est mon histoire avec Émilie. Donc Émilie...
Ton associée.
Voilà, Émilie Easton qui est mon associée, qui habite aux États-Unis, avec qui j'ai commencé à travailler il y a 13 ans, quand j'ai déménagé à New York, je crois que je l'ai embauchée quelques mois plus tard, peut-être un an, même pas. Et qui a toujours su voir en moi, je pense, des choses que moi, j'ai pas un énorme recul sur moi-même peut-être. Et on a travaillé, on a développé, je vais essayer d'aller un peu vite là-dessus parce que c'est le truc de business, c'est un peu boring, mais on a développé le média Atelier Doré ensemble. Parce qu'on avait beaucoup de demandes de marques et tout ça, et je ne pouvais plus assurer toute seule. Et donc, elle m'a aidée à développer. Et si tu veux, quand j'ai commencé à quitter la mode et tout ça, j'ai aussi quitté New York, j'ai tout quitté en fait. Et il restait en fait à New York, mon studio, on avait une quinzaine d'employés, on produisait du contenu, on avait comme un magazine à la fin. On travaillait avec les marques. On avait notamment une beauty closet énorme, parce que je recevais tout, je faisais tous les traitements. Et puis à un moment, donc il y avait ce tournant qui arrivait, et on commençait à le sentir. Et nous, en fait, si tu veux, quand Emilia commençait à travailler avec moi, j'avais créé une chose incroyable, c'est-à-dire une boîte en fait où les gens te répondent toujours au téléphone, sont toujours intéressés pour bosser avec toi, où il y a de l'argent, c'est-à-dire que, tu vois, on nous appelait pour faire des choses. C'est très rare, en fait, quand tu commences... Ouais, d'ailleurs, Doré, c'est différent, la marque de beauté. On doit démarcher, on doit appeler. Mais nous, à l'époque, on était c'est comme un restaurant qui ne désemplit pas, quoi. Il y avait tout le temps des choses à faire et tout. Et donc, pendant quelques années, presque 10 ans, on a travaillé avec cette espèce de... C'était plutôt nous qui disions non, en fait. Donc, on avait vraiment le choix et tout. Et... Et puis, à un moment où j'ai commencé à me désintéresser de ce que l'on faisait, je pense que j'ai commencé un petit peu une dépression là, à ce moment-là, mais ça s'est manifesté par plein de choses. Je me suis mise dans une mauvaise relation, j'ai commencé à plus être intéressée par mon propre travail. Y avait beaucoup de choses comme ça qui commençaient à se désintégrer. Et Émilie, qui est jeune et qui avait plein d'énergie et tout, elle assurait en fait derrière. Et c'est bien, c'est normal, hein, parce que quand on est créatif comme ça, il faut avoir un système de un coussin en fait, parce qu'on ne peut pas tout le temps être au top. Moi en plus, je représente beaucoup, donc quand je travaillais, on me disait beaucoup d'être devant les caméras et tout. Et c'est important de créer son système de support, comme on dit en américain, son support system. Et elle, c'était vraiment ça. J'avais des agents, j'avais plein de gens qui... Donc, je pouvais dire presque disparaître pendant un moment et tout continuait, en fait, à marcher. Donc, elle faisait ça. Mais on sentait que le vent tournait, puis surtout, on sentait que la joie de ce qu'on faisait commençait à nous quitter. Moi, elle était en train de me quitter parce que je te racontais. Émilie, parce qu'on s'emmerdait, on faisait... les gens ont déjà commencé à nous demander de refaire la même chose, over et over et tout ça. Pardon pour l'anglais.
Non, mais tu vis en Angleterre. Ça fait 15 ans que j'ai déménagé. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, à un moment donné, ça fait partie de... c'est normal.
Voilà, et donc, j'avais commencé à arrêter. Moi, j'étais devenue photographe, tu sais, professionnelle. Ouais. Je gagnais beaucoup d'argent avec ça, mais j'en pouvais plus. Les gens me demandaient de photographier la même photo. Et j'en avais marre. Tout ce qu'on faisait, c'était un petit peu pareil. Et Instagram était arrivé. Ça a complètement changé tout ce qu'on faisait et tout ça. Et puis, on y trouvait beaucoup moins de plaisir. C'était devenu un travail. Et l'une des choses, notamment, ça c'est pour le côté plus entreprise, pour ceux qui nous écoutent, que ça intéresse, qu'on commence à embaucher des gens. Et c'est génial. On crée des équipes. On prend des bureaux et finalement, un jour, on se retourne et on est en train de travailler pour payer tout ça. Et on ne sait plus pourquoi exactement on dit oui. On commence à dire oui à des choses auxquelles on aurait dit non si on n'avait pas besoin de payer tout le monde. Donc, ça justifie les choses. Et on peut très vite être pris dans un engrenage, notamment, surtout, je pense, que quand, comme moi, j'étais vraiment à l'époque 100% artiste, c'est-à-dire que pour moi, faire des choses qui ne me plaisaient pas. Je ne l'ai pas fait beaucoup, mais ça me détruisait ma créativité. Ouais. Ah ouais, ça me coûtait énormément.
Je vois très, très bien.
Et alors, on était dans notre période très spirituelle avec Émilie. On cherchait quelque chose. On a toujours été très en parallèle comme ça. Et à un moment, on s'est dit, écoute, viens, on va faire une retraite de silence. Et à l'époque, ça n'avait rien à voir avec notre boîte, notre boulot et tout. On se disait juste... c'était un peu la mode, je crois, pour être honnête. Et
Donc, on parle bien de ces retraites de silence où vraiment, on ne parle pas.
Non, mais ouais, mais imagine le cauchemar pour moi. Non, mais je ne sais même pas, je ne le referai plus jamais.
C'était pendant enfin, combien de vraiment... temps, cette retraite?
Une semaine.
Oh ouais, c'est super dur.
Non, mais hyper dur, quoi. Mais hyper dur. En plus, moi, j'aime rigoler et tout. J'étais célibataire, j'essayais de draguer un mec qui méditait à côté de moi, ça a marché d'ailleurs.
Ah, sans parler.
Sans parler. Il m'a donné son numéro à la fin de la retraite, j'étais là genre yes. Après on s'est parlé, c'était une catastrophe. Hein. Pas du tout, enfin vraiment pas du tout ce que j'imaginais, parce que je m'étais fait un film pendant une semaine, parce que tu médites genre 6 heures par jour. Mais l'horreur, ah ouais. l'horreur. Et Émilie, elle a un côté... Alors elle, moi j'étais première de la classe qui fait un peu le bord, en fait j'étais un peu ce mélange, mais elle vraiment première de la classe. Et alors elle a suivi le truc, elle s'est éclatée, c'était merveilleux. Et on partageait la même chambre, parce que c'est, tu sais, c'est le genre de truc où c'est super spartiate, tu oui. dors dans les petits lits comme ça, c'est pas du tout les trucs chics, voilà, ça s'appelle Spirit Rock, c'est vachement bien. Et donc pendant une semaine, moi, la misère, j'essayais de m'échapper et tout. Elle adorait. Et moi, j'essayais de lui parler. Elle me disait « ta gueule ». Et puis, on est parti de la retraite. Ses parents étaient là-bas. Ils sont venus la chercher. Moi, j'ai pris ma voiture pour redescendre à LA. C'est une route magnifique, San Francisco-LA. Mais vraiment, quoi. Oui. C'est tellement...
La lumière là-bas est assez incroyable.
Cinématique, enfin, tu vois, c'est tellement merveilleux, mais c'est merveilleux. Et donc, je l'appelle demain, j'avais ma petite mini, et voilà, j'étais dans une espèce de rêve comme ça, et je l'appelle, et puis on commence à parler. On récap un peu tout ce qu'on avait vécu. Et c'est là qu'on a dit, on va arrêter, on a décidé, on a parlé, on va arrêter ce qu'on fait, parce que, en fait, on se fait chier, on en a marre. Et c'est la fin. Il y a un truc de fin, et donc c'est fini. Et toutes les choses auxquelles je m'étais quand même malgré tout accrochée, tu sais, en me disant bon, il y a ça quand même et tout machin, j'ai complètement laissé tomber. J'étais prête, j'en avais plus rien à foutre. Comment je vais gagner des sous, est-ce que je vais continuer, les gens, est-ce qu'ils vont continuer à être intéressés, ta. J'étais là, genre, voilà.
Est-ce qu'il y a une sensation de soulagement? Ouais.
Une sensation de liberté. Moi, je pense que maintenant, j'ai 49 ans bientôt, j'ai compris quand même les thèmes importants de ma vie, et je pense que le plus cher à mon âme, c'est la liberté. Je sais pas pourquoi, je pense pas que ce soit le même pour tout le monde, mais quand je m'étais enfermée dans ce projet, et soudain j'ai ouvert les portes, quoi, et c'était je m'en foutais de tout, j'avais juste envie d'être libre. Et souvent, j'ai eu quand j'ai quitté des hommes, des histoires d'amour et tout, c'est ça, en fait. C'est cette espèce de sensation. Je pense qu'on s'enferme très facilement dans des choses, et je pense qu'il y a des gens qui supportent ça, plus ou moins. Et parfois, c'est une bonne chose, parce que pour réussir, pour développer, il faut parfois un petit peu se tenir.
Se canaliser, et se... Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Mais là, j'ai ressenti ça. Et donc... J'essaie d'aller un peu vite, parce que c'est pas possible. Et donc là, on s'est dit, ok, alors ce qu'on va faire, c'est, on va fermer, mais on va y aller doucement, parce qu'on a toujours été très respectueux de nos employés et tout ça, et on voulait pas, genre, rentrer et virer tout le monde. Donc on a donné le temps à chacun de retrouver un emploi et tout, donc ça a pris quelques mois. Ensuite, il fallait qu'on se débarrasse de notre immense studio sur le Bowery à New York, qui nous coûtait des tonnes d'argent et tout. Donc toutes ces choses qui nous alourdissaient et tout... Très attendu. Moi, j'ai du mal avec ça. Ça, c'est vrai, même encore aujourd'hui, à être alourdi par les choses, par la vie, par les
grosses maisons, par
le matériel et tout ça. Fouh, je me rends compte que ça ne me rend pas si heureuse que ça, en fait. Et donc, en janvier 2020, on a sous-loué notre studio à New York et on était libre. Et c'est quand le Covid est arrivé.
Ben oui, j'allais dire, sacrée période.
Ouais.
Donc, c'était le bon timing.
Non, mais hallucinant. Parce que, en fait, je ne pense pas qu'on aurait survécu. Moi, à l'époque, quand même, parce que je me disais, bon, il faut quand même que je gagne un peu de sous, j'avais quand même une vie, tu sais, parce que tu t'adaptes hédonistiquement, c'est comme ça qu'on dit. Plus tu gagnes de l'argent, plus, je ne sais pas, tu as une belle maison, donc ta vie commence à te coûter plus cher. Donc, j'avais commencé quand même à recommencer un peu à faire des trucs d'influenceur. Avec des marques que j'aimais bien et tout, et j'avais booké plein de jobs pour l'année, et je me disais c'est génial et tout, je vais faire ça, j'avais des trucs qui étaient sympas qui m'attendaient, et tout a été annulé en janvier, en février quand le Covid a commencé à vraiment et voilà, il y a eu une espèce de moment comme ça de vide intersidéral et de peur aussi. Parce que, en fait, ça a précipité, si tu veux, ce truc où tu dis, bon, mais maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose.
Ouais, ouais.
Mais j'ai fait quelque chose très vite, et en fait, j'ai retrouvé mon écriture et j'ai lancé ma newsletter.
Qui est super, au passage. Et sache que j'ai vu une amie hier soir où je lui ai dit, bon, demain matin, je fais un podcast avec Garance Doré. Elle m'a dit, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un silence. Elle m'a dit, ah, vraiment, est-ce que tu peux lui dire que je l'adore? J'étais, bah oui, je vais lui dire que j'adore ta newsletter. Et sache-le, et c'est vrai que, parce que c'est vrai que la newsletter est quand même quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Je sais qu'aux États-Unis, c'est vraiment bien installé. En France, ça commence. Et vraiment, tu as un don pour, être très naturel, comme tu es là maintenant, d'ailleurs, pendant cet épisode, et être très franche. Et c'est ce que tu fais depuis, en fait, presque 20 ans, comme tu le disais.
Ouais,
et c'est vraiment très agréable, très appréciable. Ah, donc, je te le dis.
Merci. Et tu lui diras, tu sais, en fait, je ne vais pas aller parler trop de la newsletter, mais je connais beaucoup, beaucoup de mes lectrices, en fait. Il y en a beaucoup qui deviennent mes amies. C'est le moyen, en fait, que j'ai trouvé. très intéressant, je trouve, de manière spirituelle et créative. Quand j'ai tout lâché, après la retraite, quelques mois plus tard, j'ai retrouvé mon écriture que j'avais perdue. Je n'écrivais plus, en fait. C'était les journalistes qui écrivaient pour moi et tout ça. Et c'est là que j'ai lancé ma newsletter. Et quand le Covid est arrivé et tout ça, en fait, quand je l'ai lancée, elle était open pour tout le monde. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de lectrices, surtout des lectrices. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit non, je veux surtout pas ça, parce que je veux pouvoir parler comme ça, me sentir complètement libre. Et on était dans une époque, en fait. Maintenant, ça a un petit peu changé, puisque en fait, c'est pas pour, c'est pas prétentieux, mais j'ai toujours fait un peu les choses en avance. Tu vois, ma newsletter, elle a 4 ans.
Oui.
Mais ce que j'ai fait aussi, surtout en avance, c'est ce que tu disais. J'ai parlé de ma dépression il y a 5 ans. Les gens, c'était la première fois, mais même je me souviens parce que il y a 15-20 ans quand j'ai commencé, je parlais du fait que j'étais moitié marocaine. Et je me souviens, mais il y avait des gens pleins qui me disaient, mais merci, je me reconnais en toi et tout, alors que c'était un truc, je te jure, tu ne le crois pas maintenant, parce que les temps ont changé, que les gens, comme moi, qui ne ressemblent pas, enfin, tu vois, ils n'en parlaient pas, on ne parlait pas de ces cultures et tout. Et donc, moi, souvent, je faisais ça, mais je m'en prenais plein la gueule. C'est un peu le problème, quand tu fais les choses en premier, tu essuies les plâtres. Facile, tu vois, c'est comme être la première blogueuse, je me faisais virer de certains trucs, les gens qui me parlaient mal, donc il y avait tous ces trucs là et je voulais retrouver l'esprit que j'avais au début des blogs où les gens se soutenaient, où il y avait une bienveillance. Moi, je me suis toujours mais vraiment sentie amie avec mes lectrices, et d'ailleurs beaucoup d'entre elles,
je pense que ça se ressent, en effet. C'est ça qui est sûrement qui fait ta différence, hein, sans aucun doute.
Peut-être, et surtout qui fait ma confiance, qui fait que moi j'arrive à partager des choses difficiles, j'arrive à dire quand j'ai fait des erreurs et tout. Je suis comme ça dans la vie avec mes amis, mais je ne sens pas une énorme... Pour moi, c'est une vraie relation dans ma vie. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté cette relation, parce que je l'avais emmenée dans un endroit qui ne me plaisait plus, donc où c'était plus moi qui écrivais et tout, j'ai senti cette espèce de... comme un break-up avec mon audience, ou mes lectrices plutôt, comme... et ça m'a beaucoup manqué. Donc maintenant, c'est une relation, quand tu sais, quand tu fais des boards où tu parles de ta vie, où tu essayes de mettre les choses, c'est une relation que je compte dans mes relations importantes. Voilà.
Oui, et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu quand je suis tombée sur une vidéo de toi pour présenter Doré, donc ta marque de cosmétiques, et j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que on t'a vu évoluer pendant presque 20 ans. Et on t'a vu, on t'a vu dans tes tenues de vêtements, parce que c'était ce pourquoi on te regardait beaucoup. Mais on t'a vu aussi, du coup, comme nous tous, vieillir, en fait. Enfin, en tout cas, avancer dans le temps. Et que t'avais ce rapport-là qui était quand même très conscient et très sain, moi, je trouve. Et de l'avoir dit dans une vidéo, je trouvais ça très intéressant.
Qu'est-ce que je disais, en fait? Ouais.
Pardon, tu disais que que tu avais cette notion de l'image, mais aussi du fait du temps qui passe, et que tu as des personnes qui te suivent depuis vraiment beaucoup d'années et qui t'ont vu potentiellement, enfin comme nous tous en fait, qui t'ont vu changer. Et tu parlais du fait que peut-être tu avais une petite tache de soleil qui était apparue, ou que tu avais quelques petites rides au coin des yeux. Et ce fait d'assumer là, cette fraîcheur, moi je trouve qu'elle est hyper intéressante dans un lancement de marque, en fait, notamment.
Ouais, quand on commencera à parler de Doré, ça fait vraiment partie de cette approche. Et d'ailleurs, en fait, j'y étais presque, parce que en fait, donc je lance cette newsletter, je la privatise en fait pour pouvoir garder ce côté intime et cette relation et tout avec mes lectrices. Et c'est à ce moment-là, alors juste pour finir l'histoire, quand avec Émilie on a fini cette partie de notre histoire, en fait. Moi, j'étais très très triste, parce que je me disais, c'est une histoire qui se finit avec Émilie. Je savais qu'à un moment j'allais retrouver mes lectrices et tout, mais c'était ça, et ça, j'en souffrais. Et puis je voulais pas l'emmerder, tu vois. Elle avait 30 ans, elle avait la vie devant elle, c'est une fille hyper talentueuse. Moi, j'ai une grande personnalité, je suis artiste, Alors, je suis quelqu'un sur qui on peut compter et tout ça, mais je ne suis pas une business. Je me disais, elle adore le business et tout. Peut-être qu'elle a besoin d'aller se frotter à d'autres gens et tout. Donc, j'ai essayé, tu sais, comme une maman qui voudrait que ses enfants restent à la maison, mais qui se dit non, non, non.
Il faut la laisser partir.
Donc, je me forçais comme ça. Et un jour, donc elle va un petit peu faire ça, je pense, un petit peu ça. Elle m'a dit, en fait, moi, j'ai beaucoup dormi, je me suis beaucoup reposée pendant ce temps-là. Alors que moi, je croyais qu'elle essayait de chercher. Et en fait, elle m'a téléphoné. Moi, donc, j'étais en train de développer... Enfin, je ne développais rien du tout. J'écrivais ma newsletter comme je le sentais. J'étais dans une espèce de joie. Mais 9 jours, mais tu ne peux pas imaginer. C'était la fraîcheur qui revenait, le contact avec, avec toutes mes lectrices que j'adore. Tout ça, enfin, j'avais besoin de rien de plus. Et d'ailleurs, je leur avais promis, ce que j'ai tenu, qu'il n'y aurait personne entre nous. C'est-à-dire que j'écris moi-même, je poste moi-même. Bon, là, j'avoue que j'ai un peu besoin d'aide, mais jamais ce sera pour écrire. Je ne referai jamais les erreurs que j'ai faites avec le blog, qui n'étaient pas forcément des erreurs, mais disons un chemin qui n'a pas été finalement si intéressant ça pour moi. Bref, pour revenir à Doré, Émilie m'appelle. Et elle me dit, écoute, j'ai une idée. On a quand même créé quelque chose de très beau ensemble. Moi, j'y crois. Je crois en nous. Je crois en notre authenticité, à notre relation, en ce en quoi on croit. Et elle me dit, et surtout, je sais que tu t'en rends pas compte, mais tu as une approche de la beauté qui est très unique. Et elle me dit, je pense qu'on peut créer une marque de skincare à partir de ça. Il y a vraiment quelque chose. Et l'histoire derrière ça, c'est que moi, en fait, pendant des années, donc comme je te disais, j'ai essayé tous les produits. J'ai été l'ambassadrice des plus grandes marques de beauté et tout. Même moi, j'y croyais pas. Maintenant, je me trouve belle. Mais à l'époque, je me disais, mais n'importe quoi. Et puis, à un moment, j'étais arrivée à 38 ans. Où ma peau, elle était là, genre, non, mais ça va pas du tout, quoi. J'étais rouge. J'ai toujours eu un côté un peu rosé que j'aime bien, en fait. Mais là, j'étais comme mon pull. J'étais hyper sensible. Je supportais plus rien. Mais moi, je faisais tout, quoi. Enfin, j'ai jamais fait beaucoup de laser. Ça me faisait peur et ça me fait toujours un peu peur. Mais j'avais fait une thérapie. J'essayais tous les rétinols. Tout.
Ouais, donc des ingrédients, des actifs un peu agressifs et qui, à un moment donné, fatiguent la peau.
Mais exactement. Ouais. Et donc, j'ai vu plein de dermatos et c'est un dermato que j'aime bien. M'avait dit, non, mais en fait, toi, il faut que tu arrêtes tout, quoi. Je vais rien te recommander. T'as pas besoin de laser. Arrête tout. Trouve-toi une bonne crème hydratante et t'arrêtes. Non, et t'arrêtes de m'emmerder. et j'ai fait ça, mais en fait, à cette époque, encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Moi, j'ai toujours aimé la beauté française et la pharmacie française. J'ai toujours adoré les produits sans odeur, la performance, les prix, le côté presque anti-glamour, mais en même temps, ça te donne une espèce d'information où tu te dis, je fais quelque chose d'un peu un peu médical pour ma peau, c'est génial. J'ai toujours eu un peu des problèmes avec les crèmes hyper parfumées et tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je mets sur ma peau? Et donc, je retourne en pharmacie, évidemment, pour trouver une bonne crème hydratante. Et là, je me retrouve confrontée aux compos, en fait, et aux formulations des crèmes qui n'avaient pas du tout évolué et où, en fait, tu retrouvais des tonnes de parabènes, tout ça. Maintenant, il y a eu un peu de ménage qui a été fait, et encore, hein, on en est quand même assez loin. Mais finalement, j'en parle à Amy, je dis, mais j'arrive pas à trouver une bonne crème hydratante. On disait pas encore Clean Beauty à l'époque. Et donc, il y a eu cette petite graine-là qui a été un peu plantée et cette quête, en fait, et puis surtout, cette quête de vérité. Je pense que liberté et vérité sont des choses très importantes pour moi dans la beauté, dans ce qu'on met. Et puis moi, c'était à une époque, justement, où mon vieillissement était vraiment commencé à être une réalité. Tu vois, j'allais avoir 40 ans. J'ai jamais eu peur. Par contre, il y avait un truc qui était assez drôle. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je n'imaginais pas qui j'allais être après 40 ans. J'avais aucune idée. Et donc, il fallait que j'accompagne un petit peu ce passage, définitivement. Et Émilie, elle, de son côté, un petit peu de la même manière que moi, mais elle a 15 ans, je crois, de moins que moi, à peu près. Elle a développé un acné cystique, je ne sais pas si on appelle, je crois qu'on dit ça.
Oui, kystique, enfin...
Kystique, voilà, ouais. Sorry. Ouais, donc hyper, hyper terrible, genre, mais... Et je ne sais pas si tu as déjà eu ça.
Oui, moi, après avoir arrêté, j'ai arrêté la contraception hormonale. Moi qui n'avais jamais eu de bouton, j'ai eu une inflammation énorme et ça a été très dur avec, avec des kystes et passer les 30 ans. Donc, on a l'âge qui est là, on se dit « Oh, mais pourquoi j'ai ça à cet âge-là » Enfin, c'est, même psychologiquement, ça peut être très dur. Moi, j'étais journaliste beauté, donc j'avoue que je m'étais... bêtement encore plus flagellée. Donc, je comprends, je vois très bien ce qu'elle a pu vivre.
Et tu connais le truc où tu te sens gênée quand tu parles aux gens et tout ça, c'est affreux, quoi.
Bien sûr, je l'ai connu. Et surtout, à l'époque, je faisais beaucoup d'événements presse beauté aussi et j'ai beaucoup réduit. C'est pour ça que je t'ai dit que je me vois très bien ce que tu veux dire depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup d'événements où parfois on nous proposait de nous maquiller et de tester les produits qu'on allait voir. Et j'étais là, non, mais ne touchez pas mon visage. Ou même, j'ai eu une phase qui n'a pas duré très longtemps et j'ai des copines qui avaient plus d'acné que moi et qui ne comprenaient pas que je puisse être déjà gênée pour le peu que j'avais. Mais moi, ça m'a quand même affectée, je dois le reconnaître. Et du coup, ça m'a aussi... j'ai changé mon approche de ma façon d'écrire mes articles, des sujets abordés, de la manière de les aborder. Et c'est un vrai phénomène, je pense, qui touche notre génération de ces trentenaires et plus qui connaissent un vrai retour de l'acné.
Ouais. Ah, oui, et je pense aussi... Moi, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que mon âge ou quoi, mais je trouve qu'en ce moment, tu vois beaucoup un retour du mélasma. Tu vois beaucoup de peau comme ça, un peu malmenée et tout. Et je pense que c'est aussi parce que on a ces 10 dernières années avec les médias sociaux et tout, on en voit quand même au niveau des ingrédients actifs, des routines à 10 étapes et tout, des lasers. Et en fait, toutes ces choses sont bien. Mais il faut les faire avec, faut faire attention, il faut laisser à sa peau le temps de se réparer, il faut se connaître, il faut savoir, et donc voilà, donc j'ai eu quand même cette observation là, et moi je suis contre rien, c'est-à-dire ni je suis pas contre la chirurgie esthétique, je suis pas contre les injectables, je suis pas vraiment, mais je trouve que ce qui est difficile, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. On aime bien les belles histoires, genre « oui, j'ai mis ça sur ma peau et d'un coup, c'était merveilleux ». Mais en fait, c'est pas comme ça. La peau, c'est une histoire de consistance, qu'on dit ça, de régularité.
De récurrence, voilà. De régularité, oui.
Et c'est pas juste « un laser va nous changer la vie ». Enfin, voilà, il faut... C'est un message toujours difficile, la modération. Et la simplicité et toutes ces choses-là. Mais c'est définitivement, si tu veux, les valeurs qu'on a mises dans Doré.
Mais alors, justement, c'était un domaine, même si tu t'es un peu penchée sur le sujet, ça reste un domaine que peut-être que tu ne connaissais pas, je pense.
Je ne connaissais pas les formulations. Voilà.
C'est ça.
Ouais.
C'était à découvrir un nouveau monde, là.
J'ai découvert un nouveau monde. C'est passionnant. En même temps, dans notre équipe, c'est Émilie qui est la plus passionnée par les formulations et tout ça. Moi, je m'occupe de la marque de manière un peu générale et j'essaye et je donne, en fait je donne l'impulsion. C'est des processus qui sont intéressants, hein, tout le backstage de la beauté, comment les produits se créent et tout ça. Les gens comme moi qui créent une marque à partir d'une idée et tout s'entourent quand même de vrais professionnels. Quand moi, je vois des célébrités qui font semblant d'être dans un labo à tester les différents trucs, non, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux à un moment. On travaille avec des gens dont c'est le métier. on s'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui comprennent notre langage. C'est pour ça que nos laboratoires sont en France, tous nos produits sont fabriqués en France, parce qu'on savait, puisque c'est ça qui nous inspirait, qu'on voulait parler le même langage. Je ne parle pas juste de la langue, le même langage en termes de qu'est-ce que c'est la beauté, qu'est-ce que c'est que s'occuper de soi, quelles sont les valeurs. Et moi, je suis très attachée à ça, à la beauté française.
Et alors justement, qu'est-ce que c'est la beauté pour toi ? C'est quoi la beauté, la beauté française peut-être ? C'est quoi ?
Pour moi, écoute, plus je vieillis, ce qui est très bien, plus je me rends compte, mais alors vraiment, hein, en fait on nous raconte que des conneries dans la vie. On nous dit la beauté c'est superficiel, ce qui est important c'est ce qu'on est à l'intérieur, d'accord ? C'est le message quand t'es jeune, c'est voilà, non ça compte pas. Et en fait, plus tu vieillis, plus tu t'en fous, en fait, des faux messages qu'on t'envoie. Et moi, je peux te dire que maintenant, à mon âge, bientôt 50 ans, c'est un âge où les femmes, leur vie, souvent, explose complètement. Qu'elles passent par des divorces, que les enfants partent de la maison, qu'elles aient des enfants très tard, que leur carrière se heurte à des... Voilà. Et puis aussi, plein de mes copines disent « Mais en fait, tout ce que j'ai créé, ça ne me va plus, tout ça. » Donc, il y a des moments... Ça peut être des moments hyper difficiles. Moi, j'ai connu... Je vois tout autour de moi. De cet âge de 40 à 50 ans, c'est un moment de grande libération, mais aussi se libérer, en fait, de tous ces fantasmes qu'on a projetés, créés et tout ça. Ça peut être très difficile. Et je me rends bien compte que ce qui peut tenir une femme qui est dans une période où, je ne sais pas, elle a tout perdu ou elle est en plein divorce, c'est de se sentir belle. Et je suis désolée parce que j'aimerais bien pouvoir lancer un message beaucoup plus profond, mais c'est ce que je... Voilà, moi j'ai plein de crises. Non, mais moi ce qui me tient là, c'est d'aller à la gym tous les jours. Je rentre dans mon jean, je sors, je me sens belle, ça me suffit. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour aller au jour d'après. Une bonne crème, ma peau est rayonnante et tout. Parce que souvent c'est ça quand tu passes des périodes un petit peu de doute, de tout ça. C'est « How do I make it to the next day ?» Comment j'arrive au jour d'après ? Et je trouve que c'est un secret de vie qui est assez merveilleux. Quand on finit par être passé par tous les états possibles et imaginables, de se dire « Non, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. La vanité, pas d'un côté négatif, quoi, mais cette espèce de... l'image qu'on projette, c'est un fondamental, en fait, pour se sentir bien. » Et donc, moi, la beauté... je trouve que c'est un espèce de... Enfin, le soin de soi, l'attention à soi. Comme les chats, quoi. Tu vois jamais un chat qui sort avec complètement...
c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Parce que je pense que c'est quelque chose dans la nature. Moi, je vois mon chien, Loulou, elle aime quand elle est propre, quand elle est... Il y a un truc comme ça, quoi. Vraiment. Bon, après, elle aime se rouler dans la boue aussi, mais... Je pense qu'il y a un côté comme ça qui a à voir au soin de soi et des choses qu'on ne peut pas vraiment philosophiquement expliquer si facilement, mais qui sont vachement importantes. J'écrivais dans ma newsletter il y a deux jours que j'écrivais ça en fait, que le soin de soi, la beauté, se sentir belle, ça peut être la chose qui nous fait tenir dans des moments très difficiles, tout autant que la méditation, la philosophie et tout ça. Et qu'il n'y a pas finalement toute cette espèce d'échelle de valeur qu'on veut nous faire avaler comme ça, d'une chose qui est noble et d'une chose qui ne l'est pas. Je trouve que c'est très noble d'avoir envie d'être belle. Et je trouve aussi que ça rend les gens autour de nous inspirés et heureux. Et que c'est moi, tu vois, quand je vois mes tantes qui ont 80 ans et je ne sais plus à peu près le même âge, c'est deux sœurs, Jeanne et Louise, prénom magnifique, je les vois quand je vais à Ajaccio, elles sont toujours mais apprêtées, belles, elles sortent de chez le coiffeur, elles se tiennent droites, c'est vraiment, et je leur dis mais merci quoi, c'est, je sais pas, cette espèce de, je pense que ça dénote d'une espèce de tenue intérieure que moi je recherche. J'écoutais récemment, je ne sais pas si je vais arriver à exprimer ce qu'il disait, tu sais, Robert, il a écrit les 48 Laws of Power, tu connais les 48 lois du pouvoir, je ne sais pas comment c'est traduit en français, et il parlait de cette espèce de personne qu'on a en nous qui n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer, de sortir, qui est notre meilleure version en fait, où... ben, on s'occupe des gens autour de nous, on s'occupe de nous, et qui est tout le temps en fait tiré par le bas par la personne qui s'est pas pris de sa douche, qui s'est pas occupée d'elle et tout ça. Et il expliquait qu'il faut accompagner cette personne qui a envie de... Voilà, excuse-moi, c'est difficile à expliquer, surtout qu'il a la vie en anglais. Il s'appelle Robert Greene. Il est génial. Et il a un petit peu comme moi, c'est plutôt moi qui est un petit peu comme lui, parce que c'est un peu un maître. Il a une vision de la vie qui n'est pas dans cette espèce de positivité. Il a une vision de la vie qui accepte le côté sombre autant que le côté lumineux. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, la beauté pour moi, c'est un mystère qui s'offre à nous et que je trouve que c'est parfois dommage qu'on nous dise « Ah non, c'est superficiel, ce qui est intéressant, c'est le reste. » Parce que parfois, les plus belles choses sont les choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer.
Et du coup, cette nouvelle aventure qui est autour du soin de soi et des produits de beauté que j'ai là, d'ailleurs, à côté de moi, je les ai pris avec moi. Comment dire, qu'est-ce que tu en tiens? Bon, c'est très récent encore, mais est-ce que tu as déjà des ressentis sur comment les choses sont en train de prendre, les retours aussi qu'on te fait, quels sont tes commentaires?
Alors, il faut savoir que, en fait, avec Doré, on a voulu vraiment développer une approche très essentialliste, tu vois.
Très peu de produits, en fait. Il y en a
pour
4.
Le moment, voilà, on a très peu de produits. On a une routine très simple. On a une eau micellaire, un nettoyant, une crème et un baume. Et aussi un roll-on, qui est un petit caprice parce que j'adore ça. Et qui est assez génial, d'ailleurs. Et
je crois pas que ce soit un caprice, au contraire, je pense que parce que tu disais qu'on mettait trop de choses sur nos peaux, en effet tes produits vont à l'essentiel, c'est beaucoup autour de l'hydratation, mais je pense que tout le secret réside dans le geste, et
le geste,
et ton outil n'est pas un caprice à mon avis.
Merci. Tu as raison. Le geste, et puis oui, voilà, ces outils très en fait mécaniques, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça de... Et puis ça marche surtout, en fait. C'est un secret pour personne que mettre des glaçons sur le visage, c'est quelque chose qu'on fait depuis des décennies. Et bon, celui-là, il est juste très pratique, très agréable, très bien fait. Il garde le froid vraiment pendant un long moment. Donc voilà. Donc pour revenir aux valeurs de Doré, on a cette approche très essentialiste, avec des produits qui, pour la qualité en fait, qu'on offre à des prix vraiment abordables,
oui.
Toujours aussi, ouais. Voilà, parce que vraiment la qualité des formules est incroyable. On aurait pu mettre des prix beaucoup plus hauts, mais ce n'était pas notre démarche, parce que moi, je voulais que ça représente exactement qui je suis, en fait, et Émilie est pareil, et je déteste... payer des prix premium juste pour payer le branding et tout ça. Je suis trop passée par là dans la mode. Je vois qu'en fait, ce qu'on paye, c'est les mannequins, c'est les photographes, c'est tout ça. Mais en fait, le produit finalement, voilà. Même si je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin, moi j'ai une copine, elle a besoin d'acheter des choses très chères pour sentir qu'elles ont de la valeur. Et encore une fois, aucun jugement sur ça. Ça fait partie des mystères, en fait, voilà. Mais moi, j'ai pas ça. Et donc, voilà. Et donc, on savait, si tu veux, que notre marque, c'est pas une marque de sensationnalisme. C'est vraiment des produits géniaux qu'on va conseiller à ses amis. Et on savait qu'on aurait une approche, on veut être lent, conscient, faire les choses. Voilà, on veut vraiment une marque qui s'installe dans la durée, avec des produits sur lesquels on revient. Moi, j'ai toujours eu cette approche où je me dis, les femmes aujourd'hui mettent tellement de choses sur leur visage, elles vont toutes avoir des moments où elles ont besoin d'une bonne crème hydratante. Mais même si tu mets du rétinol, il faut aussi mettre une bonne crème hydratante. Cette crème, qui est mon produit préféré, elle est géniale, elle est très très hydratante, mais elle est très fine.
Elle est très légère et elle laisse un fini soyeux qui est très agréable.
Voilà. Elle est incroyable et on peut la mettre en couche avec les autres parce que voilà, on est toutes là avec nos SPF, nos sérums et tout ça, donc il faut quand même prendre... Et c'était cette idée d'apporter cette alternative et une marque en laquelle on peut avoir 100% confiance sur le côté clean, sur la formulation, sur le fait que c'est formulé pour les peaux sensibles, donc aucune inflammation et tout ça. Et j'avais, enfin, Émilie et moi, on a, de toute façon, on a la même approche sur tout ça, vraiment envie de créer cette marque qui inspire la confiance totale. Mmh. Un petit peu comme on aurait pu être quand j'étais jeune pour la crème Nivea, par exemple. Mmh. Tu dis, bon, allez, voilà, j'ai besoin de... Alors, c'est différent parce que c'est pour le visage et tout, mais cette... voilà. Et ça prend du temps à se développer, de la même manière que ça prend du temps, quand on a été dans les médias, d'apprendre à... diriger en fait une marque de beauté, c'est des choses qui s'apprennent avec grand respect et tout ça, pour savoir exactement quel est le message qu'on veut faire passer, comment on parle à travers un produit, comment on respecte l'autre, comment, enfin tout ça, puis comment ça, parce qu'évidemment on va apporter de nouveaux produits dans notre gamme. Quelles sont les nouvelles, quelles sont les prochaines étapes, comment... Donc, il y a vraiment un côté très conscient là-dessus. Mmh.
Mais d'ailleurs, le choix de le faire en France, est-ce que c'est aussi lié au fait que la France et l'Europe fait partie de... Enfin, on a un rapport à la cosmétique et aux règles qui sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis.
Oui, notamment. Évidemment.
Est-ce que c'est ça, ouais. Ça fait partie des choix, notamment en plus de la cosmétique française que l'on connaît, qu'on aime, voilà, à l'étranger, et
oui,
l'idéal
bien
de beauté.
Il y avait tout ça, si tu veux. On voulait, c'est pas tellement. On voulait qu'il y ait une espèce, voilà, créer le. C'est pas créer, mais c'est apporter cette espèce de plus de confiance possible. Parce que moi j'avais perdu confiance dans les produits de beauté, et donc je voulais pouvoir apporter ça, cette espèce de là je peux y aller, je peux foncer, ça va faire du bien à ma peau. Et donc pour ça, effectivement, on savait que les exigences de l'Europe sur les formulations allaient définitivement nous donner beaucoup de travail. On a aussi on a eu le label IWG en Amérique, qui est aussi un super haut. Je suis vraiment désolée, hein, mon français, c'est une catastrophe, je réalise. J'espère que les auditeurs ne vont pas vraiment s'énerver contre moi, parce que je vois que j'hésite, je choisis mes mots, c'est compliqué.
Pas du tout.
Quelle honte. Et donc, voilà, on se met des standards, mais hyper durs pour nous-mêmes, tout le temps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand tu vois par exemple qu'on a décidé de lancer la marque, on ne s'est même pas posé la question. Il y a plein de marques aujourd'hui qui se lancent qui ne sont pas clean beauty. Mm. On n'en parle pas tant que ça et tout ça. Mais pour nous, c'est le futur, c'est ça. C'est les gens ne vont plus vouloir mettre de produits toxiques sur leur visage. Et donc, ce n'est même pas quelque chose qu'on publicise tant que ça, quoi. On en parle parce que ça fait partie de notre...
Oui, c'est plus un sujet, chose. Quoi. C'est
mais voilà, il faudrait que ce soit plus un sujet, même. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est comme le côté durable, le sustainability. Il faut que ce soit normal, quoi. Surtout quand on est une nouvelle marque. Qu'on soit une marque qui est là depuis de legacy, comme on dit en anglais, et que ça prenne vachement de temps d'assainir la machine et tout ça, je comprends complètement, et je suis pas du tout jusqu'au boutiste avec ça, mais aujourd'hui je trouve que oui, c'est quand même très important d'être exigeant avec nos formulations, ça c'est sûr.
Quel est le conseil beauté qu'on t'a transmis qui t'a le plus marqué?
Il n'y en a pas un qui me vient comme ça. Ma mère s'est toujours bien occupée d'elle. J'ai plus reproduit, en fait, les choses que vraiment avoir un conseil en particulier. Pour moi, c'est simple. C'est vraiment la simplicité. C'est avoir une peau fraîche, nettoyée et bien hydratée. C'est la base. Voilà, je suis pas contre les rides, par exemple, et tout ça, quoi. Donc, il n'y a pas un... Justement, je crois que notre marque, elle est basée sur la simplicité, la vérité. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hack, comme on dit. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de nous faire croire, c'est que... Il y a toujours un truc caché, on peut faire mieux, il y a des secrets, on va trouver cette espèce de produit miracle et tout, mais il y a toujours... Le rétinol, par exemple, ça fragilise énormément la peau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que si on a une peau de bébé, à mon âge, on a une peau de bébé à 16 ans, c'est normal, enfin, à moins d'avoir de l'acné et tout, c'est normal, c'est hyper parti. Si on a une peau de bébé à 50 ans, c'est que quelque part, on a... soit brûlé à travers le laser, soit super activé avec le rétinol, et on a fragilisé sa peau d'une manière ou d'une autre. C'est pas grave, il faut le faire, encore une fois, si on a envie de manière raisonnée et tout ça. Mais voilà, donc, il n'y a pas de secret, c'est des trade-offs, en fait. C'est, voilà.
Ça me plaît beaucoup. Le temps passe, Garance, et je suis obligée. J'aurais aimé continuer à parler à longtemps avec toi, mais j'ai une dernière question et je terminerai là-dessus. J'aime beaucoup, c'est comme ça que je finis mes épisodes, c'est de savoir à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante.
La plus confiante, c'est quand j'écris ma newsletter et mes livres et tout ça. Et que je me fais rire moi-même. Alors là, si je lis et que je suis en train de rigoler, et je me dis, mais ça va faire tellement rire mes lectrices, parce que bon, beaucoup, je me fous beaucoup de ma gueule, il y a beaucoup d'humour en fait dans ce que j'écris, c'est les meilleurs moments de ma vie. Et je me dis que dans une autre vie, j'aurais été stand-up. Pourquoi ? Parce que faire rire les gens, quand on m'écrit et qu'on me dit, mais j'ai tellement ri, bon, c'est l'autre côté de ça. Il y a soit j'ai tellement ri, soit tu as dit quelque chose où je me reconnais dedans, c'est les deux moments. Ou vraiment, mais la confiance, tu sais, genre, ça justifie ma vie, quoi. C'est cette espèce de truc qui est tout aligné. Je me dis, c'est pour ça que j'ai été mise sur Terre. C'est pour écrire et communiquer ça avec les autres. Et la plus belle, c'est vraiment, ça dépend, en fait. Je vais pas te dire, oui, dans le regard de mon homme et tout. Oui, évidemment. Mais non, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est tout un mélange de trucs, c'est quand j'ai fait du sport et que je me sens vibrée, c'est cette vibration en fait, c'est la beauté pour moi, c'est ça, c'est trouver une résonance, je sais pas, et vibrer, un truc de joie, c'est toute une énergie qu'on arrive à créer autour de soi.
Et bah, je vais finir là-dessus, merci beaucoup pour ton temps, Garance.
Bah, je t'en prie, avec plaisir.
À très bientôt.
À bientôt.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.